Radio Okapi.
Bienvenue à ce journal présenté par Belinda Bossouma. Tout de suite, le sommaire. L'ONU salue des avancées significatives des réponses sécuritaires suite à la bonne coordination entre la MONUSCO et les FARDC en cette période de l'état de siège au Nord Kivu. Déclaration du secrétaire général adjoint de l'ONU à l'étape de Goma hier. Jean-Pierre Lacroix arrive à Kinshasa ce mercredi. Toujours pas d'électricité à Mbujimayi depuis plus ou moins 5 jours. Les conséquences se font déjà sentir. Télé, les vivres frais par exemple, abîmés, sont soit jetés ou enfouis dans la terre. L'eau potable s'est fait de plus en plus rare. Mais l'entreprise qui commercialise l'énergie électrique à Mbujimayi rassure. Les équipes sont à pied d'œuvre pour rétablir la situation. Et puis, l'invité de ce midi, Dr Antoine Lufimbo, médecin directeur intérimaire du centre hospitalier Lumbulumbu à Kindu. Il nous parle de l'unité de prise en charge des enfants drépanocytaires dans ce centre, unité ouverte cette semaine. Madame, Messieurs, bonjour. Le secrétaire général adjoint des Nations Unies chargé des opérations de maintien de la paix arrive ce mercredi à Kinshasa. Son programme dans la capitale congolaise prévoit notamment une rencontre avec le chef de l'État et le Premier ministre. Hier, Jean-Pierre Lacroix était en Ituri, accompagné du ministre congolais de la Défense. Les deux se sont rendus au camp des déplacés de Roé, un camp protégé par les FARDC et les casques bleus. Sur place, Jean-Pierre Lacroix a déclaré que les Nations Unies vont continuer à appuyer le gouvernement de l'ère d'essais pour restaurer la paix. Ensuite, il s'est rendu à Goma hier même au chef-lieu du Nord Kivu. Le secrétaire général adjoint de l'ONU en charge des opérations de maintien de la paix s'est entretenu avec le ministre de la Défense et le gouverneur du Nord Kivu, le lieutenant général Constant Ndima. À l'issue de cette rencontre, devant la presse, Jean-Pierre Lacroix a fait savoir que l'ONU salue des avancées significatives des réponses sécuritaires suite à la bonne coordination entre la mission onusienne et les FARDC en cette période de l'état de siège au Nord Kivu. Le diplomate onusien a indiqué que cette détermination commune atteindra ses objectifs en dépit de quelques défis liés à certaines contraintes sécuritaires. Jean-Pierre Lacroix, dans ses propos recueillis par Gabriel Ouamenia.
Et ici, au Nord Kivu, il y a un travail qui est très actif, qui est mené en ce moment, notamment au niveau de la réponse sécuritaire, avec une bonne coordination qui s'est établie avec les forces armées de la République démocratique du Congo, qui ont elles-mêmes aussi un partenaire voisin qui travaille avec elles. Et je crois que cette détermination commune porte ses fruits, mais nous sommes tous lucides, ça prend du temps. Et c'est pour ça qu'il est important que nous, les Nations Unies, nous réaffirmions de manière régulière notre appui, notre engagement. Il faut à la fois être déterminé et en même temps savoir que ce ne sont pas des problèmes qui se règlent en quelques semaines ou en quelques mois. Donc voilà un peu le sens de cette discussion. Je sais, pour avoir déjà eu le plaisir de m'entretenir avec son Excellence, Monsieur le Gouverneur du Nord Kivu, qu'il a une connaissance très approfondie, très détaillée des difficultés, des défis de la zone, notamment en matière sécuritaire, et que nous avons un dialogue toujours très approfondi et très confiant.
Avant de s'envoler pour Kinshasa, Jean-Pierre Lacroix a visité le centre de coordination des informations entre la MONUSCO et les FARDC, construit par la mission onusienne à l'aéroport de Goma. Pendant ce temps, en Ituri, les attaques à répétition de la milice Codeco sur la route nationale numéro 27 affectent sérieusement le transport en commun sur le tronçon Bunia-Mai-Gipaïda vers l'Ouganda. Selon certains chauffeurs, seuls 5 véhicules fréquentent actuellement ces taxes par jour contre plus de 25 avant les conflits armés dans le territoire de Djougou. Les usagers demandent au gouvernement de renforcer la sécurité sur cette route qui permet de ravitailler la province en produits de première nécessité en provenance des pays voisins. Plus de détails avec Isaac Remoyope.
Les miliciens de la Codeco ont intensifié les attaques depuis environ un mois sur les tronçons Bunia-Mahagi. Ils tendent des embuscades à des véhicules de commerçants. Le week-end dernier, ces assaillants ont tué un chauffeur et pris en otage une femme et son enfant de 6 mois. Le même jour, ils ont tiré plusieurs coups de balle sur un véhicule sans faire des victimes et les passagers ont été dépouillés de leurs biens. Conséquence, de nombreux passagers ont peur de s'engager sur cette route. Ils demandent au gouvernement de la RDC de mettre tout en œuvre pour rétablir la paix à Ituri en vue de faciliter les trafics sur cette route d'intérêt régional. Un chauffeur lance un cri d'alarme.
Avant qu'il y ait d'abord ces troubles ici, au territoire de Ndjougou, on voyageait 25 véhicules par jour. Quand le désordre a commencé, et par exemple aujourd'hui avec le cas que notre frère qui a été tué, donc ça a trop pénalisé encore de nouveau, supplier aussi les gouvernements et à mesure de négocier, de donner une solution par rapport à cette situation. Parce que nous sommes déjà pénalisés.
Les porte-parole de l'armée en Ituri indique qu'il s'agit des cas isolés d'attaque des miliciens qui luttent pour leur survie. Le lieutenant Gilles Ngongo affirme que les FARDC ont déjà pris des dispositions pour renforcer la sécurité sur cette route.
Des petites représailles, des fois des petites attaques qui sèment la paix au sein de la population. L'ennemi mène les actions de survie. Nous sommes déjà à pied d'œuvre pour résoudre tous ces problèmes.
Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Je vous le disais en titre, au Kasaï-Oriental, le manque d'énergie électrique à Mbujimayi crée plusieurs conséquences sur le vécu quotidien de certains ménages qui entretiennent des activités génératrices de revenus. Depuis le début de cette semaine, quelques terrasses et quelques bureautiques sont restées fermées. Les vivres frais avariés sont soit jetés ou enfouis dans la terre. L'eau est de plus en plus rare dans des quartiers situés dans la zone haute. Du côté de l'entreprise qui commercialise l'énergie électrique à Mbujimayi, les équipes sont à pied d'œuvre depuis le week-end dernier, affirme le directeur général de NRK. Autre détail avec Esther Ndalafina.
Les conséquences créées par la coupure de l'énergie électrique sont visibles. Les prix d'un bidon d'eau potable de 20 litres qui coûtait 200 francs s'élevant actuellement à 1000 francs congolais, comme le témoigne ici Angèle Odia.
On n'a pas d'eau, le bidon coûte 1000 francs congolais. On ne se lave pas, on ne boit pas. Pourtant, l'eau, c'est la vie.
Dans des maisons de vente de vivres frais, une odeur nauséabonde accueille les clients. Les vendeuses déplorent la perte d'argent à cause des produits qui pourrissent chaque jour.
Ces femmes chefs de ménage. Maintenant là, les chercheurs, les poulets et les petites pourris et on les enfuit dans la terre.
La ville est plongée dans le noir pendant cette période de forte chaleur. Les tenanciers des terrasses ne font plus de bonnes affaires. Témoignage de Tichi Chikaya.
Les clients viennent, ils rentrent parce qu'il n'y a pas de choses fraîches, on ne vend pas.
Les bureautiques sont devenus des lieux de causerie des personnes qui attendent le rétablissement de l'énergie électrique. Simon-Pierre Sekele déplore ce temps d'inactivité.
On souffre, il n'y a pas moyen de faire la photocopie, même la saisie, souvent l'argent part.
Signalons que le directeur général de l'entreprise NRK a affirmé ce mardi que les équipes sont à pied d'œuvre pour réparer le groupe de la centrale hydroélectrique de Tchala. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Le Sud-Ubangi a un nouveau conseil de district de la FEC, Fédération des entreprises du Congo. Le nouveau président et ses membres ont été élus et installés hier à Gemena. C'était à l'issue de l'assemblée ordinaire élective présidée par le directeur provincial de la FEC Grand Équateur, parti de Mbandaka. La nouvelle équipe doit ainsi relever plusieurs défis afin de remettre les activités économiques sur les rails. Le point avec Paul-Richard Malengela.
Le nouveau président du conseil, Jean-Paul Dambana, et son équipe héritent de l'AFEC Sud-Ubangi dans un environnement difficile. Parmi les défis majeurs a énuméré l'ancien président Martin Mokaloa, il est l'absence de banque de crédits agricoles susceptible de financer le secteur café-cacao qui est le socle de l'économie de la province. À cela s'ajoute le mauvais état des routes et l'insécurité à la frontière, empêchant l'exportation des produits du Sud-Ubangi vers l'Afrique de l'Ouest. Le conflit des taxes imposées aux acheteurs de café-cacao entre les deux provinces sortes du Nord et du Sud-Ubangi, ainsi que les tracasseries des services d'assiette pour raison de maximisation des recettes provinciales ne sont pas en reste. Par ailleurs, le non-paiement jusque-là des créances dues aux nombreux commerçants victimes de catastrophes naturelles, soit de naufrages d'embarcations, est un autre goulot d'étranglement. Conscient alors de ce fardeau, le nouveau vice-président Kambale Kigoma a rassuré que son comité ne ménagera aucun effort afin de relever ce défi. Ainsi, il a recommandé à ses pairs l'établissement d'un chronogramme d'action dans la solidarité, l'union et la cohésion afin d'y parvenir. Bandaka pour Chamalingue, la Radio Okapi.
C'est peut-être pour bientôt la réalisation du projet de construction de la route Kolwezi dans le Lualaba et Solwezi dans la province zambienne des Northwestern. Le gouverneur intérimaire du Lualaba qui séjourne en Zambie pour cette raison a été reçu par le chef de l'État zambien sur recommandation des autorités congolaises à en croire la cellule de communication de l'autorité provinciale du Lualaba. Mais quelle pourrait être l'importance de cette route une fois ce projet réalisé, Jean Gandou?
Cette route qui part de Kolwezi passe par le village Sakabinda qui est à la frontière avec la Zambie sur une distance de 91 km selon les études menées par l'Agence congolaise des grands travaux. Et la ville zambienne de Solwezi est à 85 km de la frontière. Cette route est donc un raccourci par rapport à celle qui part de Kolwezi passant par Lubumbashi avant de traverser la frontière de Kasumbalesa ou de Mokambo ou encore celle de Sakania dans le Haut-Katanga. Une fois ce projet réalisé, les opérateurs économiques dont les miniers gagneront en temps et en argent, comme le souligne le président du cadre de concertation de la société civile de cette province, Shadrach Mukad.
Ouvrir la frontière Sakabinda en terminant les travaux de construction de cette route, axe Kolwezi-Solwezi, va réellement profiter du développement de la province du Lualaba. Il va faciliter les trafics sur cet axe et nos communautés en tireront bénéfice.
Pour plusieurs personnes, cette route, une fois qu'elle sera opérationnelle, ne diminuera pas le trafic entre le Haut-Katanga et la Zambie, car plus il y aura de la fluidité à la frontière de Kasumbalesa, plus cette porte d'entrée sera désengorgée pour le grand bien des opérateurs économiques qui ne devraient pas mettre beaucoup de temps pour des formalités à l'import ou à l'export. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
Sud Kivu, le territoire de Calais dispose désormais de 3 quais d'accostage modernes sur le lac Kivu. C'est le constat d'une délégation de la présidence de la République à Calais hier mardi. Ces ouvrages étaient une promesse du chef de l'État lors de son passage à Calais après le naufrage d'un navire qui avait fait plus d'une centaine de morts. Le point avec Cynthia Bachizi.
Ce sont des quais d'une vingtaine de mètres qui ont été construits à Kalehe Centre, Minova Centre et à Kinyeziri. Le quai de Kasunyu, où une pirogue motorisée avait chaviré en avril 2019, emportant avec elle 114 personnes, sera opérationnel très prochainement. L'inauguration de tous ces ouvrages est prévue en avril prochain. Pour quel impact à Kalehe, Dédé Mwamba, administrateur de territoire.
Il y avait pas mal de problèmes. La plupart des bottes étaient dans un état de vétusté, mais aussi il n'y avait pas un suivi au niveau technique, mais avec les 4 ports, il y aura des bateaux, il y aura quand même une diminution sensible de noyade au niveau de Calais. Ce qui va booster le développement du territoire. S'agissant de l'évacuation des produits agricoles, ça va nous aider un peu à évacuer à partir du littoral, c'est-à-dire tout ce que la population produit de Kacheke jusqu'à Minova peut être évacué facilement à Bukavu, même à Goma.
Défin Birimbi, président de la société civile à Kalehe, salue également la construction de ces quais, mais il plaide également pour la réhabilitation des routes nationales numéro 2 et 3, cela pour assurer une meilleure connectivité de Kalehe, qui est à la limite de plusieurs territoires du nord et sud Kivu. Cynthia Bachizi, Bukavu, Radio Okapi.
Direction la province du Kwilu. Un mort, des maisons brûlées et la population en débandade. C'est la situation qui a prévalu hier dans le territoire de Bulungu, selon le député provincial Adlar Kiebiboy, qui le rapporte à Radio Kapi. C'est le résultat d'un vieux conflit foncier qui oppose deux clans dans ce territoire. Irène Boma nous raconte.
C'est précisément au village Kubi, groupement Ikubi, secteur de Nyadjinkara dans le territoire de Bulungu, que se sont passés ces faits mardi 22 février courant. D'après le député provincial Adela Kiebiboy, un homme du clan Lukeye a été abattu en pleine forêt par des gens du clan Mofuku. Outre ces meurtres, 6 maisons ont été incendiées et la population est dans la psychose pour le moment. La même source précise que ce conflit foncier de longue date a déjà occasionné la perte de plusieurs vies humaines dans la contrée. Tout en déplorant cela, l'élite de Bulungu en appelle à la responsabilité des autorités attitrées.
Encore mort d'homme à Ikubi. Un homme âgé de 40 ans était abattu à bout portant à la forêt même. Alors, nous déplorons cette énième meurtre et nous attirons l'attention des autorités provinciales, territoriales, pour la vigilance et la protection de la population du coin. À l'heure qu'il est, et les habitants sont à des bandades, il y a des maisons, 6 maisons brûlées. À l'heure qu'il est, le corps se trouve à la forêt même. Donc, il n'y a pas une intervention jusqu'à l'heure où je vous parle là.
Le député provincial Adela Kiebiboy appelle la population de ce coin au calme et à la tolérance. Irène Boma, Bandundouville, Radio Okapi.
Les 100 voix avaient eu de la voix à travers Radio Kapi. Cette appréciation est celle de Madame Eve Bazaïba, vice-première ministre, ministre de l'Environnement et Développement Durable. Elle s'est exprimée ainsi à l'occasion du 20e anniversaire de Radio Kapi. Elle, qui se reconnaît comme étant l'un des témoins qui ont vu naître ce média, recommande une refondation totale de ses objectifs en mettant en évidence les nouvelles donnes telles que les questions sur les genres, le réchauffement climatique et la paix. Madame Eve Bazaïba est au micro de Guy Matetsongo.
J'ai vu naître la radio Okapi. Au départ, l'objectif c'était la réunification des familles séparées pendant les conflits. L'objectif a été atteint. Non seulement les familles ont été réunifiées, mais les Congolais avaient eu de la voix à travers la radio Okapi, au-delà de l'information, la formation, le divertissement. Alors, du point de vue politique, il faut dire que, entre-temps, le contexte a complètement changé. Radio Okapi a été rattrapée par d'autres moyens de communication et lorsque le pays était réunifié physiquement, Radio Okapi est rentré maintenant dans des émissions pour la promotion des questions sociales et culturelles ou faire parler aussi la population. J'ai beaucoup aimé l'émission Dialogue entre Congolais, je passe à Jérôme Ngongo. J'ai beaucoup aimé l'émission pour faire parler les enfants et des émissions culturelles avec des petites activités des terrains. Nous sommes dans la problématique du réchauffement climatique, il y a la donne de la dimension genre et la donne de la paix qui est tout à fait permanente.
Actualité internationale.
Des milliers de Sénégalais se sont déplacés en bus et en train pour assister à l'inauguration du nouveau stade du Sénégal situé à Damien Diop, auprès de Dakar. Ce site a reçu le nom de l'ancien président Abdoulaye Ouad. Le choix du nom de l'ancien chef de l'État est un hommage à son parcours multidimensionnel, intellectuel, panafricaniste, homme politique et ancien président du Sénégal, a déclaré l'actuel président Macky Sall hier lors de la cérémonie d'inauguration. Le ministère ukrainien des Affaires étrangères a appelé ce mercredi ses ressortissants à quitter la Russie au plus vite du fait du risque d'escalade militaire par Moscou. Le ministère recommande aux ressortissants ukrainiens de s'abstenir de tout voyage en Russie et à ceux qui s'y trouvent déjà de quitter immédiatement le territoire, a indiqué la diplomatie ukrainienne dans un communiqué repris par l'AFP. Par ailleurs, Kiev a annoncé la mobilisation de ses réservistes.
L'invité.
Il nous vient de Kindu. Le centre hospitalier Lumbulumbu Clinique Mapan a ouvert cette semaine une unité de prise en charge des enfants drépanocytaires dans la province du Maniema. Quel sera le rôle et les conditions de cette unité spécialisée? Pour en parler, nous recevons le docteur Antoine Lufimbo, médecin directeur intérimaire du centre hospitalier Lumbulumbu. Il s'entretient avec Florence Kizalunga.
Docteur Antoine Lufimbo, bonjour.
Bonjour, madame la journaliste.
Le centre hospitalier Lumbulumbu Clinique Mapan vient de créer une unité spécialisée de prise en charge des enfants en drépanocytaire. Qu'est-ce qui vous a poussé à créer cette unité et vous êtes parti de quel constat pour y arriver?
Merci beaucoup, madame la journaliste. Et effectivement, depuis ce week-end, nous avons communiqué à l'intention de la communauté de Kindu que nous avons monté une unité spécialisée de prise en charge des enfants drépanocytaires, communément appelés enfants SS. Alors, le constat, c'est que, sur le plan épidémiologique, à l'issue des études réalisées tant sur le dépistage néonatal que les dépistages intra-hospitaliers, il a été noté clairement qu'il y avait une certaine prévalence d'enfants drépanocytaires dans la ville de Kindu en particulier et la province du Maniema en général. Et sur le plan néonatal, environ 2% des enfants ont été dépistés drépanocytaires et la prévalence intra-hospitalière a été estimée aux environs de 20 à 35%. Et donc ça montre clairement que la drépanocytose c'est une réalité dans notre ville de Kindu. Sur le plan d'organisation, nous avons constaté qu'il n'existait pas une représentation provinciale du programme national de lutte contre la drépanocytose, le PNLCD. Pourtant, ce programme est bien installé à Kinshasa, mais ici au Maniema, il n'y a pas de coordination. Automatiquement, toutes les actions de lutte ne sont pas coordonnées et ne sont pas non plus régulées. Chaque structure fait les choses de sa manière. Troisième chose, nous avons remarqué que dans notre ville de Kindu, il n'existait pas un centre spécialisé de prise en charge des drépanocytaires, comme c'est le cas à Kinshasa et ailleurs. Et donc, les enfants drépanocytaires n'ont pas de référence pour leur prise en charge et pour leur suivi. Et voyant toutes ces insuffisances, nous avons pensé qu'il était temps pour le centre hospitalier Lumbulumbu de jouer clairement son rôle dans la pyramide des santé au sein de la province.
Quel sera le rôle de cette unité spécialisée?
Alors, le rôle, c'est la prise en charge et le suivi des enfants drépanocytaires. Et donc, l'objectif ultime de ce suivi régulier, c'est de favoriser à ce que ces enfants puissent grandir sans beaucoup de complications liées à la drépanocytose. Et ça va permettre à ce que un enfant qui est suivi régulièrement puisse avoir moins de complications. Comme on le sait bien, ce sont les enfants qui ont tout le temps des infections, qui ont tout le temps des crises douloureuses et qui, dans la plupart des cas, présentent des anémies hémolytiques. Et donc, en menant cette démarche, nous visons à réduire sensiblement les complications liées à la drépanocytose.
Y a-t-il des conditions pour avoir accès à ces services?
Il n'y a pas de conditions d'ordre organisationnel. Pour le moment, nous sommes en train d'enregistrer les enfants drépanocytaires et donc cet enregistrement est gratuit. Et nous allons organiser les séances d'éducation auprès des parents. Ces séances-là seront également gratuites. Mais lors de rendez-vous, il peut arriver que le médecin qui consulte les enfants puisse avoir besoin de connaître l'état biologique de l'enfant. À ce moment-là, il peut demander certains examens que les parents vont payer. Et aussi, il peut bien prescrire les médicaments que les parents aussi peuvent payer. Donc, s'il faut dire qu'il y a une condition, c'est seulement être un enfant drépanocytaire de moins de 10 ans. Et puis, voilà, nous vous admettons dans notre programme.
Et comment va s'organiser cette unité de prise en charge?
L'organisation, sous le plan de fonctionnement, nous avons un groupe de médecins. Il y a un médecin pédiatre, il y a un médecin biologiste, il y a un médecin généraliste, ainsi qu'il y a deux infirmières qui sont chargées de cette activité. Sur le plan de programme de formation, nous avons commencé par l'enregistrement du lundi 21 au samedi 26. Et après cette phase d'enregistrement, notre première rencontre, ça sera le jeudi. Et donc chaque jeudi à 10h, nous aurons des séances de formation, d'éducation sur le mode de vie d'un enfant drépanocytaire. Comment aider l'enfant drépanocytaire à grandir?
Docteur Antoine Lufimbo, merci.
Je vous en prie, madame.
Notre invité, le médecin directeur intérimaire du centre hospitalier Lumbulumbu de Kindu, répondait aux questions de Florence Kizalunga. C'est la fin de ce journal, coordonné par Élisée Chikota Chivueta. Supervision de Martin Sebujangwe, Dieudonné Nyangasa, la mise en onde, et Belinda Bosuma vous l'a présenté. Merci.